Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour, 16h07, et oui, déjà, c'est la Lune qui prend toute la place dans le ciel de Québec, et si on se fie à hier, là, 4h15, il va faire noir, noir, noir.
Mais la Lune est magnifique.
Oh, c'est de toute beauté, mais il est quand même pas 4h10. Bon,
la belle Lune est demain, hein, fait que ça risque d'être encore plus beau demain.
418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, on va regarder tout ça en détail dans les prochaines secondes. Le temps de vous dire que ça reste dégagé pour ce soir et cette nuit, avec un minimum de moins 4 degrés. Demain, vendredi, 8 degrés. Du temps variable, pas d'averse. Samedi, par contre, 60 % les probabilités d'averse de pluie, avec un maximum de 7 degrés. Dimanche, 8 degrés, avec du soleil, quelques nuages. Lundi, on prévoit également des précipitations de pluie, important de le spécifier, avec un maximum de 6 degrés sur les routes, Audrey.
C'est pas mal congestionnant en ce moment. Si vous êtes sur la capitale, direction est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Direction ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Charest, direction ouest, il y a quelques problèmes. Si vous êtes entre Henri IV et Robert-Bourassa, quelques ralentissements sur Robert-Bourassa-Nord, aussi entre Charest et la capitale. Pour se rendre au pont, direction sud, là, c'est compliqué en ce moment. Si vous êtes sur Henri IV, un peu après Charest, ça ralentit. Même chose pour Duplessis. Et la 20, direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021, texto.
Si j'étais un masculiniste fragile, je serais en train de capoter ma vie et de faire une méga crise d'angoisse parce que je suis encerclé de femmes charmantes, professionnelles, accomplies. Et les gens sur le Twitch l'ont remarqué très rapidement. Twitch.tv, la chaîne BLVD, barre en dessous FM. Pascal est là en remplacement de Véro. Audrey est là et s'ajoute à notre table, Antonine Iaccarini, analyste politique. Bonjour.
Bonjour.
C'est reparti. Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu vois, Antonine, il avait fermé ton micro masculiniste à côté.
C'était trop de voix de femme.
Ouais. Ouais. C'était trop. On me censure.
Ça part bien. Hein?
En passant, en tant que masculiniste accompli, vous n'avez pas 5$ à me passer. Je me dois le cul. Je veux dire, ça va pas bien, mes affaires. Antonine, parlant d'affaires qui vont pas bien, ben parlons de Québec solidaire. C'est une journée de damage control difficile.
C'était déjà pas une bonne semaine parce que, bon, il y a des nouveaux sondages qui sont sortis. Québec solidaire stagne. Est pogné comme à 13 % dans les sondages. La CAQ non plus, ça va pas très bien, mais QS, ça bouge pas. Pas capable de sortir un peu de ces cercles traditionnels. Puis on peut se poser la question pourquoi, mais je pense qu'on a une piste d'explication cette semaine.
Est-ce que, avant de jaser de l'histoire qui nous concerne, est-ce que on a le même problème, mettons, dans les deux extrêmes présentement, avec Québec solidaire puis le Parti conservateur d'Éric Duhaime? On dirait que c'est deux chars qui sont stallés là, présentement. Là.
Oui, mais en même temps, Éric Duhaime, il n'y a pas l'espace médiatique, il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale, puis il était quasiment à égalité dans les sondages avec QS. Alors que Québec solidaire a une dizaine de députés, douzaine de députés à l'Assemblée nationale, du temps d'antenne, de l'expérience politique et parlementaire. Donc, moi, si j'étais à Québec solidaire, je commencerais à m'inquiéter.
Fait que toute l'armée de Québec solidaire a la même intention de vote qu'Éric Duhaime tout seul à Sainte-Pétronée qui essaye de faire une conférence de presse.
C'est à peu près ça. Excellent résumé. Puis parmi les causes possibles, il y en a probablement plusieurs, mais ce qui se passe présentement avec le député de Maurice Richard, Haroun Bouazizi, d'après moi, en fait partie. C'est assez symptomatique. Donc, je résume, là. Haroun Bouazizi, député montréalais, est allé parler devant la communauté maghrébine devant une association à Montréal, d'Algériens, en fait, pour être plus précise, et disait la chose suivante, notamment dans son discours. Donc, nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure.
Tous les jours, à l'Assemblée nationale, ils voient ça.
On construit une image de l'autre, donc de l'autochtone, du musulman, du noir, qui est inférieur. Tabarouette!
Il croit-tu ou veut pas réagir? Il croit-tu, selon toi? Est-ce qu'il est sincèrement affecté par ça?
Peut-être, OK? Puis on est dans une époque de ressenti, hein? Donc peut-être que c'est son ressenti. Moi, je pense que quand tu veux tout analyser sous la lunette du racisme, tu vas en trouver partout. Premièrement, mettons ça au clair, là, le racisme, ça existe. Il faut lutter contre le racisme. Ça existe au Québec, ça existe ailleurs, ça existe. Mais de dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a des élus, il y a du staff, il y a peu importe, qui construisent une image des autres et qui seraient des gens qui sont inférieurs par leur couleur de peau, leur religion, là, ça va très, très loin.
C'est, j'ai l'impression, puis c'est plate, parce que quand t'es député, t'as une responsabilité, mettons, de t'élever au-dessus de ces affaires-là dans ma tête. Puis c'est un peu ta job aussi de dire... Bien, moi, quand je vais parler à des associations de gens qui viennent s'installer ici, je vais parler d'ouverture plus que de fermeture, parce que c'est comme ça qu'on crée des ghettos, c'est comme ça qu'on crée des gens qui se retrouvent en mode défensif, parce qu'eux autres se font dire, bon, bien, même à l'Assemblée nationale, ici, ils nous considèrent comme des inférieurs.
Mais si seulement c'était vrai un peu qu'il y avait du racisme là, à l'Assemblée nationale, ça serait tel que tel. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est pas vraiment le ressenti de tous les autres
qui
observent.
Mais c'est que ça sort un peu de nulle part aussi. Là,
si vous suivez un peu les réseaux sociaux de M. Boisy, vous allez voir que c'est assez régulier. Là. C'est pas
de sa part?
Oui, c'est pas un glissement qui est momentané.
Denis demandait des exemples tantôt dans le pit stop. Ouais. Il disait, tu sais, il faudrait des exemples concrets de ce qui avance, parce que c'est un peu juste... pitcher quelque chose de global
puis,
aussi.
Puis là, de ce que je comprends, on l'a comme éclipsé de la sphère médiatique aujourd'hui. Là, quelqu'un qui voudrait connaître le détail de sa pensée, il donne pas d'entrevue.
Ben non, mais il a fait des petits tweets là, pour s'excuser, entre guillemets, parce que Ruba Gazal a pris la peine, elle, de réagir et de dire que elle et GND ont eu une discussion avec leurs députés pour recadrer les affaires et qu'il précise qu'il ne pense pas que les gens à l'Assemblée nationale sont racistes.
J'ai le tweet devant moi de Ruba Gazal. Elle dit « Gabriel et moi avons eu une bonne discussion avec Arun ce matin. Nous lui avons exprimé que ses propos étaient franchement maladroits et exagérés. Aucun élu de Québec solidaire ne pense que les députés québécois sont racistes. » Et dans le cas d'Arun Bouadzi, ses excuses sont les suivantes.
«
Soyons clairs, je n'ai jamais dit que les personnes élues à l'Assemblée nationale étaient racistes. Je regrette que des collègues l'aient interprété ainsi. » Ça, c'est comme si je parle à Audrey puis je dis « Audrey, je m'excuse que tu aies vraiment mal compris ce que je t'ai très bien expliqué. »
Je m'excuse que tu aies de la peine.
Je m'excuse que tu comprennes fuck all de ce que j'essaie de te dire.
Tu as pu traiter les autres de cons?
Bien, c'est ce qu'on appelle en bon français du gaslighting.
Oui.
Donc, c'est pas des excuses. Et il y a une autre interprétation possible à cette phrase-là, c'est « Je n'ai jamais dit que des j'ai jamais dit que les personnes élues à l'Assemblée nationale étaient racistes. » Ah,
ben oui, fait que là, c'est le staff, c'est la sécurité.
C'est peut-être les concierges, je ne sais pas.
Le garde-corps? Le chef cuisinier.
Je ne sais pas. C'est peut-être systémique aussi, qui sait. Donc, on l'a caché aujourd'hui. Puis je pense que ça fait un peu partie, justement, des déboires de Québec solidaire. Puis comme je vous disais, Arun Bouadzi, ce n'est pas une erreur momentanée. Il passe à peu près 90 % de son temps à parler de racisme, de la cause palestinienne également. Ce n'est pas que ce n'est pas important. C'est juste qu'il y a une manière aussi d'amener les choses. Traiter le gouvernement de complice d'un génocide. Le gouvernement de la CAQ, OK, puis là, je pourrais vous ressortir les motions, puis tout ça, puis j'avais écrit un texte pour dénoncer notamment une des motions de M. Boisy qui dit que le gouvernement de la CAQ est complice d'un génocide.
C'est gros, là.
C'est un peu intense.
Tu sais, même si tu y crois fort, fort, fort à ta cause, puis que tu veux sensibiliser beaucoup, beaucoup les gens... À un moment donné, tu peux pas dire n'importe quoi non plus.
Bien, c'est dangereux, ça attise les tensions. Puis après, on voit ce qui se passe en ce moment. Ça divise les gens, puis les citoyens, donc les électeurs, mais en même temps, sur ton propre territoire. Là.
Puis c'est un peu le propos de Marois Risky aujourd'hui, qui, elle aussi, depuis libérale...
Elle m'a fait rire, elle.
Bien, puis honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien sa sortie. Où est-ce qu'elle explique qu'elle, bon, c'est une députée libérale qui est d'origine marocaine, et on parle de ressenti ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas son ressenti, ce que M. Boisy a décrit. Elle n'a jamais... eu l'impression qu'on l'a fait sentir dangereuse ou inférieure. Elle a été parlementaire de l'année deux fois, etc. Donc, elle explique qu'elle n'a vraiment pas la même vision des choses et elle dénonce un peu cette façon exagérée de présenter les choses qui contribue, au lieu de construire des ponts, puis à mettre un climat social propice à ce qu'on lutte contre le racisme, à finalement, comme tu disais tantôt, exagérer, mettre l'huile sur le feu.
Ça nous amène même à banaliser à un certain point. Quand ça devient trop gros, on dirait que tu n'y portes plus attention parce que
tout ce qui est exagéré devient non pertinent.
C'est donc bien difficile pour les partis de gauche, entre guillemets, de se placer par rapport aux immigrants et à l'immigration. On dirait que autant le chef du Parti québécois, quand il parle de ce dossier-là, il crée un paquet de malaise. Là, cette semaine, c'est Québec solidaire, chacun à leur façon. Est-ce qu'on marche trop sur des œufs quand on veut dire certaines choses? Je ne sais pas.
Il y a certains enjeux qui sont hautement humains et qui, lorsqu'on y met de la politique et de la politique partisane, ben ça donne ça. Mm-hmm. Donc, ça arrive régulièrement. Tout le monde a eu un peu ses débordements, je trouve, sur ces enjeux-là. Il y a des propos que je pourrais ressortir de Philippe Couillard du temps qu'il était premier ministre. Puis c'était tellement exagéré aussi, qu'il disait que le PQ soufflait sur les braises de l'intolérance. Oui. Puis, c'est vraiment des enjeux sur lesquels il y a énormément d'enflure verbale. Fait que là, tout le monde devrait prendre une petite tisane, se calmer les nerfs. Et je vais vous faire une petite prédiction sur M. Boisy.
Oui.
Ça va réarriver.
Ah oui?
Ah, oh, ouais. J'en suis persuadée. Mais est-ce que, à lire ses excuses, pensez-vous que c'est quelqu'un qui est repenti?
Puis dans un cas comme celui-là, est-ce que Québec solidaire pourrait en arriver à le tasser ou on lui donne un peu ce qu'il veut? Parce que là, c'est vrai qu'il va crier au racisme et puis on tombe dans ce qu'on veut pas nécessairement.
Écoute, s'il fallait qu'il crie au racisme parce que Ruba Gazal, qui est elle-même une Palestinienne, le tasse, là, tu sais, à un moment donné, ça, je pense qu'il se décrédibiliserait lui-même.
Mais est-ce que Québec solidaire peut en arriver à dire, regarde, on représente un courant alternatif, mais pas à ce point-là, puis on va te demander de...
Bien, GND peut faire un recentrage de son parti. Ouais. Puis lui, il aimerait ça être premier ministre. Mais c'est sûr qu'avec des éléments comme ceux-là, ça va être un obstacle pour lui.
Mais dans les dernières années, il y a eu comme une petite montée de Québec solidaire. Ça n'a pas duré longtemps, mais on sentait qu'il y avait peut-être une accession X, mettons, à ce qu'on voyait, entre autres, au Parlement, et Catherine Dorion, avant que ça commence à être une... Bon, peut-être quelque chose qui a été déboulonné, mais il y avait quelque chose. Ils l'ont perdu au complet. Le
mais c'est comme s'il avait réussi à aller chercher ce qu'il était capable d'aller chercher.
Ils ont stagné?
Ben oui, puis c'est très montréalais. Ils sont allés quand même chercher quelques députés en région, à Québec, c'est pas vraiment une région, on va se le dire, en Abitibi-Témiscamingue puis en Estrie. Maintenant, avec des propos comme ceux-là, comment tu vas chercher des gens en région? Puis même à Montréal, tu sais, des gens raisonnables qui entendent des affaires de même. Donc, on peut pas, tu sais, je pense pas qu'il va être exclu du caucus comme tel. Moi, je pense qu'il y a le droit à un avertissement. Tout le monde a le droit de se tromper. Là, je vous fais un peu des clins d'œil, là, parce que je pense que ça va réarriver. Mais peut-être qu'il pourrait décider de ne pas le représenter à la prochaine élection, par exemple, ou de l'encourager fortement à ne pas le faire.
C'est extrême, ça donne pas confiance.
Puis, non, pas du tout.
Et en même temps, mais ça peut peut-être expliquer certaines réorientations. Quelqu'un qui, par exemple, a déjà été solidaire, ben si tu veux te représenter, ben peut-être que tu vas te tourner vers la bannière d'à côté qui a le vent dans les voiles dans les sondages.
Un autre symptôme que ça ne va pas très bien, Mélissa Généreux, oui. Docteur Mélissa Généreux, candidature vedette dans la dernière élection. Justement, on parlait d'Estrie.
Oui.
Il y a une députée en Estrie, Christine Labrie, le comté voisin dans Saint-François. C'était vraiment une bonne candidature. Le parti pensait pouvoir aller faire un gain de ce côté-là. Ça n'a pas fonctionné finalement. Elle se rapproche du Parti québécois et elle dit être séduite par le Parti québécois à l'heure actuelle. Tu sais, pour le dire publiquement, tu sais, des fois, tu peux avoir peut-être des réflexions puis penser changer d'orientation un peu politique, mais elle le dit là, sans détour qu'elle est séduite par le Parti québécois.
Même,
ça peut inquiéter QS aussi.
Elle va même participer au dimanche au Conseil national du Parti québécois là, comme experte, là.
Ça parle plus de quel parti? Du PQ qui a changé un peu ou que de Québec solidaire qui a perdu? Ça parle plus de quel parti?
Moi, je trouve que ça en dit plus long sur Québec solidaire comme tel. Cela dit, je pense que Dr Généreux a déjà été proche du PQ par le passé. Puis on sait qu'il y a certains vases communicants entre la CAQ et le PQ.
Oui.
Et entre QS et le PQ. Parce que c'est deux partis souverainistes, parce que le Parti québécois a été plus traditionnellement de centre-gauche, QS un peu plus à gauche. Il y a déjà eu une aile de gauche plus forte au PQ avant l'existence de QS. Donc, c'est pas si étonnant que ça, mais en même temps, ces deux, même s'il y a une certaine communauté d'esprit sur des choses, même s'il y a déjà eu des projets de convergence, on se souviendra, là, on voulait faire des alliances entre QS et le PQ, les militants du PQ et de QS se détestent.
Ah, absolument! Ils détestent bien plus, je veux dire, les militants solidaires détestent bien plus les militants péquistes que les militants libéraux ou ceux de la CAQ. Là.
Fait,
la plus grosse guerre politique présentement, c'est entre ces deux camps-là. Hein.
C'est celle-là. Donc, ça doit particulièrement faire mal de voir cette semaine, là, Mélissa Généreux qui peut-être sera candidate à la prochaine élection.
On parle beaucoup du dernier sondage, la CAQ qui croule dans les bas-fonds. Est-ce que ça peut être suffisant comme son de cloche pour... Puis je sais qu'il a dit qu'il allait revenir, puis se représenter, puis tout, mais est-ce que la seule chance de salut de la CAQ, c'est que François Legault s'en aille, puis c'est de préparer la suite, puis faut pas trop attendre, faudrait que ça se fasse relativement rapidement si on veut que ça marche.
si c'est le scénario qui est choisi par M. Legault de laisser sa place à quelqu'un d'autre pour la prochaine élection, ça ne peut pas être dans très, 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 très longtemps. Là, on va voir des propos, on pourrait quasiment les transposer sur Justin Trudeau.
Hein. Ouais.
On en a déjà parlé de ça. Il y a une réflexion aussi de son côté, sauf que lui, c'est une élection qu'on ne sait pas elle va être quand. Bien, celle au Québec qui reste quand même presque 2 ans. Donc, si, par exemple, M. Legault voulait laisser la chance à des candidats de faire une course à la direction, faudrait que, comme au printemps, là, à peu près, là, on
Mais
commence
Antonine,
à le savoir.
Les derniers sons de cloche, c'était pas ça pantoute. Là, il arrivait d'un point de presse. « Hey, M. Legault, comment ça va? » Moi, ben, je me représente en 2026. Je veux dire, il attendait même pas les questions, puis il disait, tu avais l'impression qu'il s'adressait à des gens de sa gang, là, plus qu'aux médias ou au public. Là.
Aussi. On peut avoir plusieurs publics cibles en même temps. Cela dit, en politique, il y a ce qu'on appelle des fictions nécessaires. C'est-à-dire que tu dis pas que tu vas tasser quelqu'un du conseil des ministre tant que tu n'es pas rendu au jour que tu vas le tasser. Tu as confiance en lui ou en elle à 100% jusqu'au matin où tu le tasses. C'est un peu la même chose. Est-ce que tu te représentes ou pas? Tu ne peux pas laisser planer ça. Pierre Fitzgibbon avait fait ça là, dans les mois précédents. Ça ne finissait plus. Le premier ministre se faisait poser plein de questions. C'est le premier ministre qui a fini par dire « Pierre, là, vas-y, là, va-t'en, là, on va arrêter de niaiser. »
Ça va être plus simple.
Donc, pour M. Legault, il n'y a pas le choix de dire « je me représente, je me représente, je me représente ». Mais c'est sûr qu'il doit avoir une certaine réflexion. Par contre, il ne faut pas penser que c'est magique parce que M. Legault s'en va, ça va sauver la CAQ. Hein, parce que c'est un parti qui est largement articulé autour de lui-même.
Oui, puis on n'a pas préparé beaucoup de relèves. On en parle souvent. Je veux dire, quand on compare, mettons, la taille des ministres qui représentent la région de Québec versus il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, toutes couleurs politiques confondues, on a perdu du lustre, puis on a perdu du poids.
Je pense qu'on a toujours un peu cette impression qu'avant, il y avait des plus gros calibres, puis tout ça. T'sais, une fois que tu entres dans la fonction... Tu sais, Pierre Poilievre, par exemple, avant qu'il devienne chef du Parti conservateur, beaucoup de monde disait « il n'y a pas le calibre d'être premier ministre, il n'y a pas le calibre d'être chef du parti ». Puis c'est bizarre à dire, mais on s'habitue. Les gens comme mettent leur veston de chef.
J'ai même vu du monde réélire Donald Trump récemment. C'est vrai qu'on s'habitue aux extrêmes.
Ça,
hein? Oui.
Mais
oui.
Il y a quand même
les nouvelles.
Plus de candidats spectacles, de candidats vedettes là, qu'on avait dans le temps, non? C'est peut-être ça, finalement, l'apparence.
Je pense que c'est une illusion.
Oh, mais Geneviève Guilbeault ne serait pas bonne pour redorer l'image de la CAQ?
Bien, moi, je pense qu'elle pourrait tout à fait le faire. Par contre, c'est quoi sa vision, Geneviève Guilbeault, pour la suite des choses? On ne le sait pas trop.
La dernière année a été difficile aussi. Je veux dire, elle a piloté des dossiers où la CAQ a changé d'idée 3-4 fois.
Ça a été difficile pour presque tout le monde à la CAQ. Je dirais que celui qui, on dirait, plane au-dessus de tout ça, puis ce n'est pas parce que son dossier est facile, c'est Christian Dubé.
C'est vrai.
On dirait qu'il n'y a rien des problématiques de la CAQ qui lui colle à la peau. Il y a assez de problèmes avec le réseau de la santé.
Oui,
mais
quand même.
Les gens lui pardonnent pour l'instant. Ça pourrait être un candidat potentiel. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui représenterait la jeunesse, disons.
Le charisme aussi peut-être d'un leadership, d'un orateur, ce n'est pas super pour lui.
Les gens l'aiment quand même, sauf qu'une fois que tu deviens chef, là, tu réponds à tout. Là. Ouais. Tu ne peux plus choisir là, tes sujets sur lesquels tu réponds. Puis les questions éthiques, là, elles commencent à t'atteindre beaucoup plus. Mais tu sais, de se dire, qu'est-ce qui donne la meilleure chance à mon parti pour gagner l'élection? Est-ce que c'est que je reste ou que je quitte? C'est des décisions qui sont extrêmement difficiles, mais peut-être que de quitter, ça ferait en sorte d'amener la CAQ encore plus bas. Là. C'est comme un coup de dé, c'est difficile à dire.
Parlant de coup de dé, on aime ça, les messies, les sauveurs, puis c'est rare que ça marche, par exemple, surtout quand ils sont annoncés à l'avance. Puis quand on nous a annoncé, hey, on va sauver le système de santé grâce à Santé Québec, tout le monde est devenu sceptique un petit peu parce que c'est pas la première fois qu'on nous propose des solutions qui vont marcher et ainsi de suite. Puis là, elle est en tournée d'entrevue cette semaine, la nouvelle PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, qui a fait la tournée des régions pour aller voir les problèmes sur le terrain. Je mets des guillemets ici. Penses-tu que c'est bien aligné? Penses-tu que c'est bien parti? Moi, juste de nous vendre ça très gros, je pense que c'était l'erreur numéro un.
Ils ont monté les attentes.
Absolument, ben oui.
Puis là, bon, c'est ça. Cette semaine, Geneviève Biron faisait une tournée d'entrevues. J'ai trouvé qu'elle n'était pas très équipée pour faire ces entrevues. Puis je pense que tout le monde veut donner la chance aux coureurs. Puis même dans cette réforme-là, même si on est sceptique, même si on est cynique, tout le monde se dit, bon, ben il faut bien essayer quelque chose. On ne peut pas juste laisser le système de santé s'écrouler.
Parce que collectivement, on souhaite que ça marche. Ben, je ne veux pas. Là.
Ben exactement. Mais en même temps, on est un peu tout le monde découragé. Là, on a monté les attentes avec Santé Québec. Moi, je suis bien prête à croire que ça va fonctionner. Je veux que ça fonctionne. Mais j'ai été un petit peu déçue.
Pourquoi?
Parce que j'ai trouvé qu'on me donnait des réponses de politiciens déjà? Cette semaine. Ouais. Déjà. Et c'est pas son rôle d'être... C'est comme des lignes de presse de ministre.
As-tu des exemples?
Ben, elle a dit cette semaine au 98.5 à Patrick Lagacé qu'il fallait vraiment remettre l'usager au cœur de nos actions.
Hey, c'est bon, c'est nouveau, ça!
Pour une fille qui s'est battue contre ça avec François Legault quand elle était chez Hydro-Québec, elle se battait contre tout ce qui était gouvernemental, cané.
Oh non, vas-y.
Il y a beaucoup de besoins et le volume est en hausse.
Ah, c'est... Ouais.
Il y a beaucoup de capitaines sur la glace aussi. Trop de capitaines.
Ça, c'est
trop
bon.
De capitaines
c'est
sur
bon.
La glace. On ne savait rien de tout ça.
En fait, là, c'est que...
Elle parlait-tu du RTC?
Je comprends qu'elle n'est pas encore en poste. Sauf que là, je ne comprends pas le timing des entrevues dans ce cas-là. Moi, je pensais qu'on allait déjà m'arriver avec des pistes de solutions en me disant pourquoi... Par exemple, on nous parlait... elle parlait cette semaine des chirurgies, des listes d'attente épouvantables pour les chirurgies. C'est vraiment inquiétant et c'est inacceptable. Puis les citoyens, il y a des citoyens qui souffrent à cause de ça. En entrevue, elle se fait demander qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça. Ah, bien, j'ai envoyé des équipes sur le terrain pour voir qu'est-ce qui ne marchait pas. Là, je me disais, on ne sait pas ce qui ne marche pas.
C'est parce que des équipes sur le terrain qui sont allées voir les problèmes, il me semble qu'ils sont quelques ministres de la Santé à l'avoir fait.
Il y a un plan d'action qui a été fait il y a plusieurs années par Dr. O'Patterney au ministère de la Santé. Pourquoi il n'a pas été déployé? Il a-t-il été déployé? Est-ce qu'il a été déployé puis il n'a pas marché ou on ne l'a pas déployé parce qu'il y avait un enjeu? S'il y avait un enjeu, c'était lequel? On peut-tu travailler à cet enjeu-là? Faut-tu changer de direction? Moi, j'aurais voulu qu'elle me dise, bien, on ne l'a pas déployé pour telle raison. Moi, je vais régler le problème par telle solution. Puis, si t'es pas prête à répondre à ces questions,
Vas-y pas,
là.
Le ministre va dire, hey, ces gens-là travaillent fort, on va les laisser travailler, puis quand ils vont arriver avec leurs solutions, parce que, platement parlant, d'entendre la PDG du nouvel organisme qui va sauver le système de santé dire exactement les mêmes platitudes qu'on entend depuis 15-20 ans à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la Santé.
Ça marchera pas, là.
Je pense pas.
C'est la Top Gun. Puis c'est un peu inquiétant, ça veut-tu dire encore que c'est le bateau de la santé, le problème? Parce qu'on avait des espérances par rapport à la personne, c'est une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui a dirigé une coupe, un peu comme celle qui était justement chez Hydro-Québec puis qui est partie. Est-ce que ce sont les machines officiellement, puis on n'a plus rien? Tu sais, ça serait super triste, là, comme constatation officielle, là. C'est un peu la dernière fois ils peuvent nous surprendre.
Écoute, peut-être. Tu sais, on nous a aussi monté les attentes en disant Top Gun, puis tu le disais, là, Pascal, là, que c'est supposé d'être une Top Gun. Mm-hmm. Le choix des mots est important.
On aurait dû prendre Bord routier. C'est quand même un moins bon film, là, je veux dire. Je pense qu'on s'est trompé, là. On a mis la barre un peu haute.
OK, je peux-tu vous dire une dernière affaire qui a été dite dans ces entrevues, puis qui m'a quand même un petit peu fâchée, là. OK, l'accroissement du budget en santé depuis 10 ans est d'environ 50 %.
Mm-hmm.
La population, 10 %.
Ouais.
Donc, on offre beaucoup à la population, c'est bon, ce sont des bonnes choses, mais je sens qu'on doit se recentrer sur l'essence de notre réseau. OK, là, je veux juste vous dire, l'accroissement du budget en santé, c'est environ 50 %. Je veux juste vous dire là-dessus, là, il y a une question d'inflation aussi, il y a eu à peu près 30 % d'inflation. Okay? Une pièce qu'on a passée il y a 10 ans, c'est une pièce et 30 maintenant. Deuxièmement, 50 % la population a augmenté de 10 % la population est aussi vieillissante.
Oui.
Donc, là, si tu me dis que tu veux rééquilibrer ces chiffres-là, tu me dis que tu vas couper dans les soins. Ils peuvent pas nous prendre pour des valises, là. On s'en va vers des compressions.
Alors que les besoins, eux, vont augmenter juste avec la courbe de vieillissement.
Donc, puis ça, c'est un calcul un peu trop simpliste. Puis je sais pas si... Elle pense qu'on va pas comprendre, mais on comprend là, qu'est-ce que
je
ça veut dire.
Je vais le pousser
là.
Des pourcentages. Hey. Là, personne ne va comprendre ce que ça veut dire.
J'en faisais des calculs simplistes cette semaine. On lisait que 50 % des Québécois renonçaient à aller recevoir leurs soins parce qu'ils ne savaient pas comment ou parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué ou qu'ils se décourageaient. Ça veut dire que présentement, on a un système de santé qui fonctionne à 50 % de ce qui devrait fonctionner là en 2024 parce que si on y allait toutes, on serait à 100 % On est à 50 % On est débordé. Là, on va vieillir plus, on va en avoir besoin plus.
Non, mais il y a tellement... Dans ce que tu dis, il y a tellement d'affaires, tu sais. On s'en va où? On s'en va à l'hôpital parce qu'on n'a pas de médecin de famille. Il n'y a pas de soins à domicile. Il y a des gens qui utilisent le système de santé de mauvaise manière parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'aller à l'hôpital. Ben, ils auraient juste besoin d'avoir une consultation, un renouvellement de prescription, etc., etc. Donc, j'ai hâte qu'on m'apporte des solutions, là, vraiment. Parce qu'en plus, toute cette réforme-là, ce que ça fait en sorte en ce moment, c'est que le ministère de la Santé est pratiquement paralysé, là. Soyons clairs, là, puis tout le réseau qui tourne autour...
Ils attendent la suite, là?
Bien, c'est ça, là. Mm-hmm. Fait que là, ça presse que le gouvernement s'enligne. Puis moi, je pense que Le fait de faire une réforme et en plus de faire des compressions, ça risque de donner le même résultat que la réforme Barrette, parce que c'était un des problèmes de la réforme Barrette, c'était qu'en même temps, on a fait l'austérité. On s'enligne exactement dans le même sentier.
C'était malhabile de la faire sortir cette semaine pour faire des entrevues où elle avait, dans le fond, pas grand-chose de neuf à dire. Puis ça va juste rajouter à l'inquiétude actuelle et des contribuables et du système de santé qui attend les recettes miracles.
Oui, puis il nous reste pas grand temps. Tu sais, quand on reçoit l'urgentologue Élise Berger-Pelletier qui vient nous jaser, ça fait plusieurs fois qu'elle nous dit c'est 2035, j'y vais vraiment de mémoire, que la pyramide va être complètement inversée.
Pour
que,
l'âge, là, oui.
On va avoir plus de personnes dans les hôpitaux que de travailleurs de santé qui peuvent nous soigner. Fait qu'on y arrivera plus pas en tout.
Tu sais, on dit toujours qu'on s'en va vers un mur, mais ce que tu viens de dire là, je pense que là, c'est le vrai mur.
Ah oui.
Puis, c'est ça. Fait que la prochaine fois qu'ils font faire une tournée d'entrevue, parce que là, cette semaine, effectivement, si c'était à faire, je pense qu'il ne faudrait pas faire cette tournée d'entrevue-là. Mais là, la prochaine fois, il va falloir qu'elle arrive vraiment, vraiment mieux équipée. Là.
Antonine Iaccarini, merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Toujours un plaisir. 16h33, on fait une courte pause et tel qu'annoncé, en passant fait noir, hein, c'est pas long. C'est vraiment pas long. Ça. Et c'est vraiment décourageant. 418-971-1021 pour nous rejoindre. Vous êtes à Boulevard 1021, c'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour.